Europe Midi. Thierry Dagiral.
Bonjour à tous, bienvenue, il est midi et demi. Comme un goût de déjà-vu, une Marseillaise à 20h et des annonces. Mais lesquelles face au variant Delta qui prolifère en France? Emmanuel Macron prend donc la parole ce soir. Que peut-il dire? Louis Dragnel sera avec nous dans un instant. Ils sont arrivés ce matin à Rome, les joueurs italiens, nouveaux champions d'Europe après une finale mémorable. Retour sur une résurrection dans ce journal. Elle demande de l'aide et de l'argent. L'industrie automobile à l'Elysée en ce moment. Elle dénonce une transition énergétique dévastatrice. Explication à suivre. Et puis on ira dans les coulisses des préparatifs du 14 juillet à Paris. Répétition ce matin à l'aube. L'invité d'Europe Midi, Rémi Salomon, le président de la commission médicale de l'APHP. Mais pourquoi cette allocution du président ce soir?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
20h donc ce soir à suivre sur Europe 1 en direct, nouvelle allocution radio-télé du président Macron. Plus de 2 mois et demi après l'annonce du déconfinement, nouveau cas de conscience pour le chef de l'État après un nouveau conseil de défense sanitaire. Aujourd'hui, bonjour Louis Dragnel.
Bonjour Thierry.
Que peut nous annoncer ce soir Emmanuel Macron?
Eh bien, plusieurs pistes sont évoquées. La vaccination obligatoire de tous les soignants sans distinction, mais aussi celle de tous les sapeurs-pompiers. En revanche, selon nos informations, la vaccination obligatoire des policiers et des gendarmes n'est pas envisagée à ce stade. Ensuite, le chef de l'État pourrait aussi annoncer le renforcement de l'isolement et des contrôles aux frontières avec certains pays où le variant Delta est en train d'exploser, comme la Grande-Bretagne, l'Espagne et le Portugal. Emmanuel Macron envisage par ailleurs d'étendre le pass sanitaire qui permet jusqu'à présent de circuler dans l'Union européenne, d'utiliser ce pass sanitaire à l'intérieur du territoire national pour accéder à certains événements ou à certaines manifestations qui rassemblent un public large. Pour le reste, le président devrait annoncer sa décision concernant la réforme des retraites, s'il l'amène avant la fin de son mandat ou bien s'il l'enterre. Et enfin, concernant un éventuel remaniement, il pourrait être annoncé dans la journée sous la forme d'un communiqué de presse.
Louis de Raganel, chef du service politique d'Europe 1, allocution donc à suivre dès 20h, puis décryptage et analyse ensuite jusqu'à 21h sur Europe 1. Pour l'heure en tout cas, vous êtes plus de 35 millions à avoir déjà reçu une première dose de vaccin, mais, et sans doute qu'Emmanuel Macron le martèlera encore ce soir, dans un contexte où le variant Delta devient majoritaire. Attention, Anne Le Gall, à ne pas relâcher trop vite les gestes barrières.
Exactement, les Français ne sont plus que 2/3 à éviter les poignées de main et les embrassades pour se saluer. Le port du masque systématique est aussi en recul de 12 points par rapport au mois de mai dernier, selon la dernière enquête de Santé publique France. Et pourtant, le Conseil scientifique l'a rappelé dans son dernier avis, la couverture vaccinale reste à ce stade insuffisante pour laisser tomber ces gestes barrières. L'aération, le gel hydroalcoolique, le masque reste indispensable, confirme Alexandra Maille, épidémiologiste à Santé publique France, surtout avec le variant Delta qui est 60% plus contagieux que le variant britannique.
Sa contagiosité exige que leur application soit vraiment parfaite et très stricte. Et on pense en particulier au port du masque dans les milieux intérieurs, hein, bien sûr, mais également au port du masque correct, c'est-à-dire couvrant bien le nez et la bouche. Et on commence à avoir des rapports de clusters survenus dans d'autres pays qui indiquent que vraiment l'erreur n'est pas permise avec ce variant.
Et dans ce contexte, rappelons que la vaccination permet aussi de limiter les contaminations. Selon l'Institut Pasteur, une personne non vaccinée a 12 fois plus de risques de transmettre le virus qu'une personne vaccinée avec 2 doses.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Fermer ses frontières aux non-vaccinés, est-ce que c'est la bonne solution? Malte est le premier pays à l'avoir fait en espérant ainsi juguler la recrudescence des nouveaux cas de Covid-19. Mais la Commission européenne veut convaincre l'archipel de revenir sur cette décision. En attendant, vous le savez, il est recommandé d'éviter de se rendre au Portugal ou en Espagne où le variant Delta circule beaucoup. Les jeunes sont les principaux vecteurs et victimes du variant. Et pourtant, les beuveries dans la rue se poursuivent. Chaque soir, ces fêtes sauvages réunissent beaucoup de vacanciers, notamment des Français. Sur place, à Barcelone, le reportage de notre correspondant Henri de la Guérie.
C'est le point de rendez-vous de tous les jeunes Européens. Comme chaque soir, le Paseo del Born est noir de monde. L'alcool coule à flot, on danse, on s'embrasse. Mais il n'y a pas de masque, pas de distance de sécurité. Sébastien est venu de Marseille pour fêter son enterrement de vie de garçon. Et peu importe si le variant Delta se propage à Barcelone.
La vérité, on en a marre. On a 22 ans, la moitié des jeunes, on est obligé de se restreindre. On empêche tout le monde de vivre. Je trouve que ce n'est pas normal. Moi, après, je suis vacciné, j'ai mes 2 doses. Mais j'ai zéro stress.
Un peu plus loin sur un banc, Louise et Manon boivent un mojito dans un verre en plastique. Elles sont étudiantes en médecine à Brest, elles sont vaccinées et elles n'ont pas voulu annuler leurs vacances.
On sait que le variant est là, mais on profite avant tout, jusqu'à ce que les frontières soient fermées.
Moi j'ai la sensation d'avoir donné un an et demi de ma jeunesse, donc j'avais envie de bien profiter, rencontrer du monde parce que ça manque beaucoup, parler à des gens surtout. Quoi.
Chaque soir, la police disperse tant bien que mal les rassemblements, mais chez Maria, le désir de fête est plus fort.
Soit tu restes chez toi, soit tu sors. On ne va pas avoir peur du Covid toute la journée.
Mais aujourd'hui, le virus circule aussi vite en Catalogne qu'au printemps 2020. En revanche, grâce au vaccin, la pression hospitalière reste assez faible et la courbe de mortalité continue de diminuer. Barcelone, Henri de la Guéry, Europe 1.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Le sport à présent avec le foot Bekel final. Quel match hier soir. Jusqu'au bout, l'Italie est donc championne d'Europe, brisant le rêve de l'Angleterre hier soir, un peu avant minuit, après les tirs au but. Ambiance hier soir dans les rues de Rome.
On a montré que même au tir au but, on est les plus forts grâce à notre défense invincible. On mérite la victoire parce que même si notre équipe n'est pas la plus forte techniquement, on a le meilleur groupe. Et après 2 ans volés par la pandémie, ce qu'il y a de plus beau, hein, c'est qu'on est tous rassemblés pour faire la fête. Le Covid existe toujours, hein, mais c'est l'occasion de ne plus trop y penser. Surtout que grâce au foot, toute l'Italie est unie.
Voilà des supporters enflammés comme Matteo avec Blandine Huguenet, notre correspondante à Rome. Bonjour Julien Froment.
Bonjour.
Nuit très courte hein, pour les joueurs italiens. Ils sont arrivés ce matin à Rome.
Hein. Effectivement, les héros de Wembley sont arrivés au petit matin à Rome, à l'hôtel Parco dei Principe, l'hôtel Le Parc des Princes, ça ne s'invente pas. Vers 7h15, sous les acclamations de plusieurs centaines de tifosi qui ont scandé Seven Nation Army, la chanson des White Stripes, hymne officieux hein, de la sélection. Tous les joueurs, le staff sont partis ensuite se reposer quelques heures afin de poursuivre les festivités cet après-midi.
Julien, est-ce qu'on peut parler donc de résurrection de cette équipe italienne?
Oui, cette équipe d'Italie revient de loin, de très loin, pas qualifié pour le Mondial 2018. La sélection bleu-azur a été reconstruite avec patience et rigueur par un homme, Roberto Mancini, sélectionneur national. C'est lui le grand artisan de ce retour au premier plan. Il a su allier les joueurs d'expérience comme Chiellini et Bonucci avec les jeunes pépites, à l'instar du gardien Gianluigi Donnarumma, élu meilleur joueur du tournoi.
Oui, c'est vrai, c'est comme dans un rêve. Un rêve incroyable. On est entré dans l'histoire et on le mérite car on est un groupe extraordinaire. Presque personne ne croyait en nous. Et voilà, on est ici ensemble pour fêter ce trophée.
34 matchs sans défaite, une défense de fer, une attaque efficace, un groupe uni et un mental d'acier qui déjoue tous les pronostics. L'Italie n'était pas attendue si haut, si vite. Outsider, elle devient désormais la grande favorite de la prochaine Coupe du Monde en 2022 au Qatar.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1 finale qui a rassemblé hier sur M6 12 millions de téléspectateurs. Et puis en marge de cette finale, le Premier ministre britannique Boris Johnson dénonce les insultes racistes visant des joueurs anglais après leur défaite. Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d'eux-mêmes, déclare-t-il ce matin sur Twitter. Europe 1, 12h38, l'économie. À présent, avec la transition écologique dans l'automobile, les représentants de la filière sont reçus en ce moment à l'Élysée. Maud Descamps, ils réclament de l'aide pour notamment le passage au moteur électrique, une transition exigée par Bruxelles.
Oui Thierry, l'abandon du moteur thermique au profit de l'électrique d'ici 2035. Selon les professionnels du secteur, il faudrait 17 milliards d'euros d'ici à 2025 pour réussir cette transition. Les constructeurs, les équipementiers mais aussi les partenaires sociaux plaident donc pour un plan de soutien. L'enjeu est double. Il faut à la fois développer la fabrication de batteries électriques. Pour le moment, la France ne compte pas assez de gigafactories pour les batteries. Il y a 3 projets d'usines, mais il va falloir en développer encore plus d'ici 2030 et donc changer d'échelle. Et puis, il faut déployer à grande vitesse des bornes de recharge électrique. Sur ce point, nous sommes en retard puisque seulement 33 000 bornes ont été installées alors qu'il était prévu qu'il y en ait 100 000 en service d'ici la fin de l'année. Les discussions qui ont lieu donc en ce moment même autour de la table devraient porter sur un plan détaillé pour accompagner cette profonde mutation de la filière automobile. Une transition qui devrait permettre de créer plus de 35 000 emplois.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. La politique en bref, ils seront quatre candidats pour la primaire écologiste. La députée Delphine Bateau, l'eurodéputé Yannick Jadot, le maire de Grenoble Éric Piolle et l'ancienne numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts Sandrine Rousseau. Premier tour de cette primaire du 16 au 19 septembre prochain. Et puis la maire de Paris Anne Hidalgo est à Villeurbanne près de Lyon aujourd'hui. Elle rassemble plusieurs centaines de maires d'élus. Ils vont parler pouvoir d'achat, logement, santé, transition écologique. Le but est bien sûr d'ébaucher son projet pour une de plus en plus possible candidature à la présidentielle. Le retour du 14 juillet, comme avant, sur les Champs-Élysées, avec du public, J-2, dernière répétition à l'aube. Et évidemment, rien n'est laissé au hasard des répétitions auxquelles vous avez pu assister, Pierre Herbulot.
Une cadence parfaite. Après 3 jours de répétition à la base, les troupes au sol ont pu essayer leurs bottes sur les Champs-Élysées ce matin. 1400 mètres de parcours avec un dénivelé d'1,6% et des pavés parfois traîtres.
Oui, ça change à ce point-là. Et donc si on veut que ce soit beau, on a besoin de s'être préparé et de ne pas le découvrir le jour J.
Cédric Méreuse est colonel du 31e régiment du génie de Castelsarrasin. Ses troupes sont prêtes et excitées.
D'abord, il y a beaucoup de curiosité aujourd'hui. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils voient les Champs-Élysées. Donc ils sont très heureux et ils prennent cette fille, comme tous les jeunes.
Au bout de l'avenue, devant l'obélisque de la Concorde, les différentes fanfares accordent leur violon, ou plutôt leur cuivre. Le lieutenant Larieux est chef de musique adjoint des troupes de la marine.
Par exemple, sur le démarrage du défilé, la musique des sapeurs-pompiers débute et nous prenons le relais quand les troupes arrivent à hauteur de la place de la Concorde. Donc il y a ce qu'on appelle la fameuse bascule, la musique continue de jouer, la même musique, mais c'est pas le même orchestre qui prend le relais. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui doit être calé au millimètre près pour éviter que les troupes perdent le pas devant la tribune.
Une préparation qui scotche les soldats d'élite suédois de la force européenne Takuba, invité après-demain.
C'est incroyable, c'est très différent à la Suède et c'est grand.
Au total, ce sont 5000 hommes, 300 véhicules, avions, hélicoptères et 200 chevaux de la garde républicaine qui défileront mercredi pendant 2 heures.
Pierre Herbulot, tôt ce matin sur les Champs-Élysées à Paris. Journée de repos aujourd'hui sur le Tour de France, journée off en Andorre avant d'attaquer 3 nouvelles étapes pyrénéennes. On termine avec un jeu vidéo et une première, un record cette nuit, une cartouche de jeu Super Mario datant de 1996 a atteint l'enchère de $1,560,000 aux États-Unis, Clément Le Saffre.
Oui, c'était à Dallas, au Texas, à la salle de vente Heritage, qui propose régulièrement des jeux vidéo de collection. Et hier, les enchères ont dépassé toutes leurs espérances.
L'enchère est à 1 300 000. Personne à 1 350 000, vous êtes sûr? Dernier appel, adjugé vendu à $1,300,000.
Voilà, 1 300 000 plus 20% de commission et ça fait $1,560,000, un record pour un jeu vidéo. Et quel jeu, Super Mario 64, un classique parmi les classiques, sorti en 1996 sur la Nintendo 64. On reconnaîtrait un jeu Mario entre mille, hein. On saute, on affronte Bowser et on sauve la princesse Peach. Sauf que pour la première fois dans ce jeu, le petit plombier moustachu était en 3D, un jeu entré dans l'histoire. Donc la cartouche vendue hier était en plus en excellent état dans sa boîte, jamais ouverte. Et c'est ça qui fait sa valeur, c'est très très rare. Un nouveau record donc 2 jours seulement après le précédent, $870,000 pour une cartouche de The Legend of Zelda, autre jeu culte sur la NES cette fois. De record en 2 jours donc, et il y a fort à parier que la nostalgie des acheteurs fasse encore grimper le cours des jeux dans les prochains mois.
Clément Le Saffre, spécialiste des jeux vidéo à Europe 1, mais pas que. Il nous reste à voir le temps, Marlène Duret. Bonjour Marlène.
Bonjour Thierry.
Marlène, c'est quoi ce temps pourri, on peut le dire.
Oui, c'est une goutte froide qui est centrée au large de la Bretagne avec des axes pluvieux qui tournent tout autour. Alors la goutte froide, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? C'est quoi une goutte froide? Alors pour faire simple, c'est bien aussi de faire un petit peu de pédagogie de temps en temps.
Prenez.
C'est la confrontation de masses d'air. On a de l'air frais en altitude, de l'air plus chaud au sol. Vous savez que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Il monte et ça va se confronter. C'est un contraste de masse d'air et ça va former des nuages.
D'accord.
Et tous ces nuages vont donner de la pluie. Et c'est très difficile à prévoir ce genre de contexte très instable.
C'est ça en fait la vraie question.
En attendant, je vais commencer par vous donner le temps de cet après-midi. Donc on a un axe pluvieux des Pyrénées au Massif central à la Bourgogne jusqu'à la frontière belge. Ça passe par le centre, la Lorraine. L'Île-de-France est un petit peu en marge, simplement des averses. Et à l'avant de cet axe pluvieux, on va retrouver des orages. parfois fort, hein, de bonnes pluies. Et ça va donner beaucoup d'eau la nuit prochaine, en particulier entre l'Ardèche, le Lyonnais, l'Alsace, en passant par une partie de la Bourgogne et de la Franche-Comté. On va surveiller tout ça. Il y aura peut-être une vigilance orange, qui sait. On a aussi beaucoup d'averses du côté de la Normandie. Ça remonte vers le Nord-Pas-de-Calais. Des orages aussi, hein, dans ce secteur. C'est un petit peu mieux en allant vers la Bretagne, la façade atlantique. On va remonter vers le Limousin et la Touraine. Vous voyez, ça forme un petit peu un triangle. Donc quelques averses et puis un ciel nuageux du côté du Golfe du Lion. Pas de soleil. Il faut aller vraiment vers la Riviera, hein, vers la Côte d'Azur et la Corse pour trouver du soleil. Alors les températures, elle baisse à l'ouest, 17 degrés à Cherbourg, 19 au Havre et à Limoges, 20 degrés à Nevers, Clermont-Ferrand, Toulouse. Vous savez qu'on perd une dizaine de degrés dans le sud-ouest. Il faisait 31 à Toulouse hier, donc 20 cet après-midi. Oui,
il y a tout ça un peu.
Il y a Ritz aussi, on passe de 28 à 19. À l'est, pas d'évolution pour le moment. 25 à Nancy cet après-midi, donc avant la pluie. Hein. 28 à Lyon, 30 à Grenoble. Et puis autour de la Grande Bleue, allez, c'est 25 à Montpellier sous les nuages.
Ça fait rêver.
Sous les nuages, attendez.
Vive le sud. Ouais.
31 à Marseille.
Ils ont de la chance.
Il fait meilleur. Et 33 en Corse du Sud.
Voilà. Merci beaucoup, Marlène. À tout à l'heure.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
2h46, restez avec nous dans un instant. Mon invité, le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale de l'APHP. Qu'attend-il de l'allocution du président ce soir? A tout de suite.
Avec sa nouvelle chaîne de podcasts, récits et aventures extraordinaires, On de la Traconte et Europe 1 vous accompagnent sur la route de vos vacances.
Et Apollo 11 s'arrache de l'attraction terrestre et le vaisseau est en route pour la Lune.
17 épisodes haletants et captivants. À découvrir en avant-première et en famille pour les abonnés à la chaîne On de la Premium. Disponible sur Apple Podcasts. Europe 1, On de la Traconte, le podcast de récits le plus écouté de France.
C'est le livre de votre été.
La Louve Qatar, le grand roman de Mireille Calmel. Une mine d'or cachée dans la montagne noire. Un roi décidé à s'emparer du trésor. Un homme sans visage en embuscade. Et pour La Louve Qatar, le temps de la vengeance. La Louve Qatar de Mireille Calmel, un livre XO. XO, lire pour le plaisir.
Les super-héros, c'est bien. Les super-affaires Poltronet Sofa, c'est encore mieux. Poltronet Sofa vous fait profiter de super remises de 50% jusqu'à 75% sur tous nos canapés. La semaine des super-affaires, c'est jusqu'au samedi 17 juillet, pas un jour de plus. Poltronet Sofa, a autentica qualità. Et voilà, qualité authentique, vérifiez disponibilité, conditions en magasin.
Et après 50 ans, on est plus libre.
Ah oui, on peut faire ce qui nous plaît, aller au musée, voyager, même s'épuiser sur la piste de danse.
Je sais pas danser, moi.
Et alors? C'est pas ça qui va nous en empêcher.
Vous aussi, rencontrez des célibataires qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain.
Leclerc.
C'est quoi ton forfait mobile, toi? Moi, je suis perdue.
Réglo Mobile, le nouveau forfait à 9,95€ avec appel, SMS, MMS illimité et 60 gigas.
9,95€, 60 gigas? Ça m'a l'air bien.
Carrément. Et c'est un forfait sans engagement que tu peux même bloquer. Et puis le prix ne bouge pas.
Eh ben super, c'est réglé.
Réglo.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions, consultable sur le site.
Calvi, Bonifacio, Saint-Florent, la France est belle vue de la mer. Cet été, au départ de Nice, découvrez avec Ponant la Corse sauvage et authentique. Équipage français, gastronomie, sortie et débarquement en Zodiac, à bord d'un superbe yacht à taille humaine, vivez des instants de voyage rares et privilégiés. Réservez dès maintenant votre croisière Ponant au 04 91 300 800 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
Europe Midi. Écoutez le monde changer. Thierry Dagiral.
Bientôt 12h50 sur Europe 1. Notre invité, le président de la commission médicale d'établissement de l'APHP, le professeur Rémi Salomon. Bonjour professeur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur dans Europe Midi. Désormais, on est à un peu plus de 3300 cas positifs au Covid chaque jour, une hausse de 60% sur une semaine, en cause bien sûr le variant Delta. Professeur, pourquoi Emmanuel Macron s'adresse à la nation ce soir? Ça peut paraître peu finalement, 3300 cas. Pourquoi fallait-il réagir si vite?
Alors en fait, le variant Delta est de loin le plus transmissible de tous les variants qui existent aujourd'hui, hein, et depuis le début de la pandémie, celui-ci est particulièrement transmissible, ce qui fait que la progression est très rapide, j'allais presque dire foudroyante, et donc ça va très vite. Il y a une croissance exponentielle, comme vous le savez, mais avec une période courte, hein, ça double en Angleterre tous les 9 ou 10 jours. Donc il faut s'attendre à ce qu'en France, on ait la même progression, voire même peut-être un peu plus rapide dans la mesure où on est un peu moins vacciné que les Anglais. Donc ça va très vite et on sait qu'à ce rythme-là, eh bien, vous voyez, hein, 3 500, on passe à 7 000 en 10 jours, puis ensuite 14 000 à ce train-là. On arrivera probablement à plus de 100 000 à la fin du mois d'août si on ne fait rien. Donc ça va très très vite. Il faut réagir maintenant. Chaque jour, je dirais presque chaque jour qui passe est un jour qui fait que la progression va poser problème. Donc il faut vraiment réagir vite.
Pour éviter ce que l'on a bien sûr vécu, ce que vous avez vécu dans les hôpitaux, c'est-à-dire bien évidemment un nombre impressionnant de gens qui arrivent à l'hôpital.
Alors oui, il faut quand même préciser que cette vague, cette quatrième vague qui arrive, a quand même quelques différences avec les précédentes. La différence, c'est qu'on a quand même vacciné, malgré tout, beaucoup de gens, et surtout les sujets âgés, dans les classes d'âge les supérieures. Ce qui veut dire que nous aurons moins, proportionnellement, moins de patients hospitalisés, hein, par nombre de cas, nettement moins. Et on le voit d'ailleurs en Angleterre déjà, hein, les Anglais, les réanimateurs nous disent, hein, qu'ils voient arriver dans les hôpitaux des gens plus jeunes, 30, 40, 50 ans, mais c'est un peu décalé. Donc ça arrivera si on ne fait rien, si le nombre de cas augmente beaucoup, il y aura aussi une pression sur l'hôpital, mais elle arrivera un peu plus tard avec des gens un peu plus jeunes. Et puis n'oublions pas, même chez les sujets âgés, hein, il y en a à peu près 20%, je crois, 75 ans qui n'ont pas encore reçu de vaccination, des gens qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, hein, c'est-à-dire diabète, poids, de l'obésité qui les rend plus fragiles, ça on le sait bien depuis le début de la pandémie, qui les rend plus fragiles et à risque de faire des formes graves, beaucoup d'entre eux ne sont pas encore vaccinés. Donc il y a réellement encore une marge, j'allais presque dire un réservoir, enfin beaucoup de gens qui sont encore susceptibles de faire un Covid grave.
Et cette tension, j'imagine que vous regardez un peu ce qui se passe près de chez nous, cette tension commence, elle est palpable, notamment en Grande-Bretagne.
Elle existe déjà en Grande-Bretagne. Ouais. Donc ça a été décalé, hein, les Anglais ont à peu près un peu plus d'un mois de décalage par rapport à nous. Donc oui, on sait que si on ne fait rien aujourd'hui, le risque que à nouveau nos hôpitaux se trouvent sous pression, et peut-être avant la fin de l'été, ce qui est réel, ce risque est réel, et vous imaginez, si on doit rappeler les soignants pendant leur congé annuel, j'ose même pas y penser, ils sont déjà, après tout ce qu'on a vécu depuis un an et demi, ce serait une vraie catastrophe, je ne sais pas comment on pourrait faire.
Professeur Rémi Salomon, on le disait la dernière fois que le président a parlé, c'était il y a 2 mois et demi, pour justement raconter un peu ces étapes du déconfinement. Est-ce qu'on a crié victoire trop vite? Est-ce qu'on a trop vite relâché la pression, abandonné notamment les gestes barrières?
Écoutez, je pense qu'on était tous plein d'espoir. Moi, le premier à penser qu'avec la vaccination, quand on arrivait là au mois de mai, juin, on a vu le nombre de cas et d'hospitalisations baisser vite, même un peu plus vite, hein, souvenez-vous, que ce qu'on avait prévu. Et donc, on s'est dit, ça y est, on tient le bon bout. Avec la vaccination qui, à l'époque, était très dynamique, hein, on avait jusqu'à 400 000 injections par jour. Et donc, c'est vrai que finalement, les choses ont changé un peu. Le rythme de la vaccination a un peu baissé, et puis surtout ce variant plus transmissible qu'on ne le pensait, hein, et qui arrive plus vite. Donc il y a vraiment cette course contre la montre. On parlait de course contre la montre, hein, entre la vaccination et le virus. Là, clairement, c'est le virus qui est en train de prendre le dessus. Donc il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on réagisse vite, comme je vous le disais en commençant, vite. Et alors après, comment, c'est le fond du problème. Voir comment on réagit. On ne va pas évidemment reconfiner. Je pense que personne n'y songe aujourd'hui. Mais cependant, il faut reprendre quand même un peu les gestes barrières. Il faut se ressaisir. Je pense qu'il faut remettre un peu plus les masques. Il faut, quand on est à l'intérieur, il ne faut pas être trop nombreux. Ça, c'est plus du tout respecté, hein, les jauges. La distanciation, il faut qu'on soit un petit peu distants les uns des autres, surtout à l'intérieur. Il faut vraiment aérer les locaux. Bon, des tas de choses, hein, vous voyez, qu'on a beaucoup dit dans le passé, qu'on a un peu vite oublié, c'est vrai. Bah, là, il faut se ressaisir.
Le président devrait annoncer, on l'a dit, hein, la vaccination obligatoire des soignants. Est-ce que vous seriez pour l'étendre à d'autres professions, même carrément à l'ensemble de la population?
L'ensemble de la population, ça me semble un peu compliqué, mais je laisse le politique prendre ce type de décision. Moi, je pense, et les soignants, oui, il faut qu'ils soient vaccinés, c'est sûr, c'est un problème qu'ils ne le soient pas, et je dirais, au-delà des soignants, tous ceux qui sont par leur profession en contact avec des gens fragiles, vulnérables. Donc il faut étendre un tout petit peu au-delà des soignants. Moi je pense qu'il faut aussi, parce que dire c'est obligatoire sans autre forme de procès, je pense qu'il faut accompagner. Moi je suis encore frappé de voir que beaucoup de gens sont très hésitants et se posent encore des questions et que nous n'avons pas, je le dis collectivement, nous n'avons pas su répondre clairement à leurs questions. Je pense qu'on a là vraiment un déficit d'information, j'allais dire d'explication ou de pédagogie ou comme vous voulez, mais franchement, quand j'explique les choses de manière très claire, par exemple, on craint les effets à long terme, donc on préfère attendre un peu. Les gens disent très souvent ça, j'entends très souvent. Je leur explique, je leur dis, mais vous savez, l'ARN, c'est extrêmement fragile. Quand ça rentre dans la cellule, pour ensuite faire la protéine qui va déclencher la réponse immunitaire, l'ARN n'a une durée de vie de quelques heures. Au bout de quelques heures, il plus rien. Donc vous n'avez pas, il n'y a plus de traces du vaccin. Le lendemain, c'est fini. La protéine et la réaction immunitaire a été enclenchée, mais il n'y a plus aucune trace d'ARN.
Et cela, on ne l'a pas assez dit.
Je crois que nous ne l'avons pas assez dit. Les nanoparticules, ce n'est pas de la 5G. La nanoparticule, c'est juste une membrane d'acide gras qui permet de protéger l'ARN très fragile, justement. Et ces nanoparticules, pareil, elles disparaissent instantanément à partir du moment où elles délivrent l'ARN dans la cellule. Il n'y a plus de nanoparticules, elles n'existent plus, et ça ne sont que des lipides. Vous voyez ce genre de choses très simple, juste pour expliquer comment ça marche. Je pense qu'on n'a pas fait assez, et quand on explique aux gens bien les choses, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui tombent, et il y a presque du fantasme autour de ce vaccin, finalement, on dit qu'il est arrivé trop vite et que c'est un peu mystérieux et qu'il nous fait peur. Beaucoup de gens ont encore peur et ont absolument besoin qu'on leur explique les choses. Il faut le faire maintenant.
Professeur Salomon, autre annonce attendue, l'extension du pass sanitaire aujourd'hui nécessaire uniquement, je le rappelle, dans les événements regroupant plus de 1000 personnes, il pourrait être abaissé à 500 ou 100. C'est un bon outil possible ?
Moi, je pense que ça va inciter. Oui, je pense qu'il faut le faire. Ça me semble assez logique. On ne peut pas demander à tout le monde d'être... Voilà, il ne faut pas que tout le monde soit... Ceux qui ont fait la vaccination ne doivent pas payer pour ceux qui ne l'ont pas fait, quelque part. J'entends de plus en plus cette fracture qui va se produire. Donc, oui, je pense qu'il faut vraiment inciter les gens se dire que dans tous les lieux publics, les lieux où on se retrouve à plusieurs, il faut effectivement filtrer, que ce soit essentiellement... demander aux gens d'être vaccinés pour aller dans ces lieux-là. Et je pense que pareil pour l'école et l'université. Alors l'école, je ne sais pas, mais pour l'université, les étudiants, je pense qu'il faut aussi qu'ils aient en tête qu'à la rentrée, on va probablement à nouveau être obligé de faire un peu attention à ça. Et s'ils veulent avoir des cours en présence du prof, et pas à distance comme ils l'ont fait l'année dernière, c'est quand même vraiment pas bien, il faut qu'ils se vaccinent dès maintenant et pas au retour des vacances. C'est maintenant qu'il faut le faire.
Le professeur Rémi Salomon, invité d'Europe Midi. Grand merci à vous, professeur. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Au revoir.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
Dans un instant, votre journal de 13h, puis La France bouge. On se retrouve ce soir. Bel après-midi à tous sur Europe 1.